Et jamais que mardi, mais c'est le.
On le voit
au niveau des appels. Bon 1er mai, bon brin de muguet. Offrez des petites clochettes comme ça, promesse de bonheur à ceux que vous aimez.
Ils sont arrivés déjà.
Elles sont arrivées en Bretagne, bah c'est super.
Oh oui,
je vous embrasse. Je vous embrasse.
J'habite en Bretagne aussi. Hein.
Ah, bah alors, la Bretagne est en France ce soir.
Je suis à côté de Saint-Malo.
Ah, magnifique. Non, on voit les pubs dans le métro, nous. On s'en contente pour le moment. Belle soirée à vous. Au revoir. RTL. Belle nuit à l'écoute de RTL. Il est minuit. 24 heures d'info avec Victor Pourchet.
Un 1er mai surveillé, mais annoncé calme par une note des renseignements consultée par RTL. Elle évoque des cortèges majoritairement festifs, mais prévoit quelques tensions, notamment en lien avec la guerre à Gaza. 270 manifestations sont prévues dans toute la France. 150 000 personnes attendues, dont 30 000 à Paris. Et combien dans les rangs des syndicats qui ne marcheront pas unis, contrairement à l'an dernier contre la réforme des retraites? La CGT, FSU et Solidaires défileront contre l'austérité. La CFDT pour une Europe plus ambitieuse, notamment à Nancy. Le Rassemblement National, lui, ne célébrera pas Jeanne d'Arc, comme c'était la tradition sous Jean-Marie Le Pen, mais Jordan Bardella sera en meeting à Perpignan, la tête de liste RN aux européennes, avec Marine Le Pen, doit y présenter ses 34 colistiers pour ses élections. Le principe d'une marche blanche samedi pour Matisse, c'est oui, reste à en définir les contours. Le maire de Châteauroux dit s'être mis d'accord avec la famille et discuter désormais avec la préfecture. L'adolescent de 15 ans tué à coups de couteau, le suspect du même âge est mis en examen pour meurtre, sa mère pour violence volontaire sur personne vulnérable. La moitié des prix du péage de l'A14 près de Paris prise en charge par l'État, mais seulement pour les covoitureurs. C'est l'annonce du ministre des Transports, une mesure pour compenser la fermeture de l'autoroute A13, toujours éventrée en partie par des fissures. La mesure durera jusqu'à la remise en service de l'axe, mais on ne sait pas encore quelles en sont les modalités d'application précises. Une tragédie sans nom, une escalade intolérable. Les mots de représentants des Nations Unies sur une éventuelle offensive israélienne sur Rafah à Gaza. Offensive qui aura lieu avec ou sans accord de trêve avec le Hamas, affirmé plutôt Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien qui accuse toujours des chefs du mouvement terroriste de s'y cacher parmi les réfugiés palestiniens. Le sport et le football, les demi-finales allées de la Ligue des Champions et le Real Madrid est allé décrocher le match nul de partout à Munich contre le Bayern. Ce mercredi, 21h, le Paris Saint-Germain se déplace à Dortmund. Vous suivrez ça dans RTL Foot, édition spéciale dès 20h autour d'Eric Silvestro. La Formule 1 et le monde de l'automobile rend hommage à Ayrton Senna, le légendaire pilote brésilien mourait il y a tout juste 30 ans dans un accident sur le circuit d'Imola en Italie, là où lui sera rendu un hommage ce mercredi. Et puis vérifiez bien vos tickets si vous avez joué. Un Français vient de remporter plus de 166 millions d'euros à l'euro-million. Alors pour gagner le jackpot, il fallait cocher le 13, le 22, le 24, le 33, le 47 et les deux étoiles 5 et 1. Votre météo de ce mercredi, le temps sera bien pluvieux sur les trois quarts du pays avec des orages en journée, plus marqués sur le centre-est. Ce sera bien plus lumineux sur l'Alsace-Lorraine, les maximales de 10 degrés à Tarbes et jusqu'à 26 à Strasbourg. Et puis les courses, le quintet est à Saint-Cloud ce mercredi après-midi. Les pronostics de Dominique Cordier, il vous conseille de jouer le 5, le 3, le 11, le 2, le 9, le 8 et le 4. L'outsider de RTL, c'est le 2, Jojo Junior.
RTL, 24 heures d'info. Jusqu'à minuit 30, parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL.
De 22h à minuit et demi, c'est votre voix que l'on entend sur les ondes de RTL. L'antenne est à vous au 09 69 39 10 11. Alors parlons-nous encore pendant une demi-heure. C'est le 1er mai, il va y avoir des vendeurs de muguet un petit peu partout. L'occasion comme ça d'offrir un peu quelques clochettes et du bonheur à ceux que vous aimez ou à vous-même. d'ailleurs, voilà, vous offrez quelques petites clochettes. Un petit mot pour vous dire que ce 1er mai, justement, ça c'est l'arbitre, c'est Marc, carton rouge. On sera là avec la petite équipe en espérant que Paul sera de retour. On verra, ça sera la surprise ce soir. On sera là et à 23h parce qu'il y a aussi un match important ce soir. PSG Dortmund, match aller. Donc on sera là de 23h à minuit et demi. Put on my blue suede shoes and I boarded the plane. Touchdown in the land of the Delta Blue. In the middle of the pouring rain, WC handy, won't you look down over me? Yeah, I got a first class ticket, but I'm as blue as a boy can be. Then I'm walking in Memphis, just walking with my feet 10 feet off a beam. Walking in Memphis. Saw the ghost of Elvis on Union Avenue. Followed him up to the gates of Graceland. Then I watched him walk right through. Now security, they did not see him. They just hovered around his tomb. But there's a pretty little thing waiting for the king down in the jungle room. Off a beam, walking in Memphis. But do I really feel the way I feel? They've got catfish on the table. They've got gospel in the air. Oh, you got a prayer in Memphis. Now Muriel plays piano every Friday at the Hollywood. And they brought me down to see her. And they asked me if I would do a little number. And I said, tell me, are you a Christian child? And I said, ma'am, I am. Tonight, walking in Memphis, I was walking with my feet 10 feet off a beam. Walking in Memphis. But do I really feel the way I feel? Walking in Memphis. I was walking with my feet 10 feet off a beam. Suede shoes and I boarded the plane. Touchdown in the land of the Delta Blues. In the middle of the pouring rain. Touchdown in the land of the Delta Blues. In the middle of the pouring. C'était Marc Cohn sur RTL, Walking in Memphis.
Jusqu'à minuit 30, parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL.
Ah, Marc, il fait des bêtises. Quand il n'a pas son klaxon, il a son sifflet d'arbitre. Allez, ça sent le pont là un peu, hein. Voilà, il a l'humeur farceuse. Allez, on va accueillir maintenant, qui c'est qui est avec nous ? C'est Joséphine. Bonsoir Joséphine.
Bonsoir.
Bonsoir.
Caroline.
Vous avez un joli prénom.
Merci. Alors j'ai beaucoup de choses à dire, je ne sais pas comment je vais commencer.
Par le début.
Ouais, bah, le début, c'est un déménagement dans le sud.
D'accord.
Il y a 10 ans, et pour offrir une vie meilleure aux enfants.
Oui.
Donc, je démissionne d'un grand groupe et je me dis, wow, la vie va être fantastique dans le sud. Et donc, le papa de mes enfants reste à Paris parce que ses sociétés sont là-bas et il revient que le week-end.
Ah oui, c'est pas banal. Alors, vous en aviez parlé ensemble, j'imagine.
Oui, ben voilà, c'était un beau projet et je me dis que la vie va être fantastique, je vais rencontrer plein de monde, là, voilà, ça va être et puis voilà, j'ai pas réussi à faire mon trou, j'ai pas réussi à trouver un cercle d'amis, je vivais que pour les enfants, que pour à travers eux. Et les enfants ont grandi et j'ai senti un énorme vide et j'ai repris le sport de façon obsessive, puisqu'il n'y avait que ça qui comptait. Je me suis vraiment, de façon obsessive, cherché un corps pour me muscler, parce que peut-être que mon estime était au plus bas à ce moment-là. Je cherchais à me valoriser et je commence à fuir la réalité et je passe par un entraînement, une alimentation qui finissent par occuper toute la place dans ma tête et dans ma vie.
Un peu en addiction, quoi. C'est-à-dire autour du sport et après pour vous sculpter un corps, une alimentation
en contrôle. Un corps que j'ai jamais eu à l'adolescence peut-être que c'est une revanche sur mon corps. Et là, à 50 ans, mon corps m'écoutait. Plus je m'entraînais, plus je me sentais bien, quoi. Je me sentais une guerrière. Et puis un matin, ben on se réveille et puis on voit plus personne autour de soi, plus rien ne compte, on ne voit plus ses enfants, je m'occupe plus d'eux, j'y arrive plus, je m'enferme progressivement dans un monde et une grande solitude. Puis on cherche autre chose, on ne sait pas quoi, on fait n'importe quoi, sans limite. Puis je tombe dans une espèce de spirale de puis on s'en rend pas compte, en fait. On est dans une quête, mais on ne sait pas de quoi. Et puis on commence à faire plein de dégâts autour de soi, puisque on rejette tout, en fait. Plus rien ne m'intéresse, ni mes amis, plus rien, quoi. Donc, jusqu'au jour où, de cette addiction au sport, ben, j'ai envie d'en faire mon métier, donc je repars à 50 ans. À l'école, pour être coach sportif, je me dis que j'ai envie de coacher des femmes de mon âge, en fait. Je me dis qu'il y en a plein comme moi qui ont envie de... Oui, qui ont besoin de mon énergie. Mais en fait, c'est n'importe quoi, en fait. Je pars à l'école et je me blesse. Je me blesse en faisant de l'haltérophilie et puis je me dis, ben, comment j'arrive pas à étudier, parce qu'en fait... compliqué, je suis ailleurs, j'y arrive pas. Je me dis, ouais, cette blessure, ben, tant mieux finalement. Elle tombe au bon moment. Et j'arrête tout, et puis je décide de partir, de quitter ma famille parce que je.
Et votre famille, c'est-à-dire votre mari, donc si j'ai bien compris, lui ne vivait pas avec vous. C'était vos enfants qui vivaient avec vous, c'est ça ?
Oui, voilà, c'est ça, en fait.
Votre mari, lui, était toujours resté en région parisienne ?
C'est ça, il revenait.
Qu'est-ce qu'il disait ? Il se rendait compte de votre changement, j'imagine ?
Je pense qu'il, parce que je devenais... mon corps avait changé, j'étais plus la même, j'étais plus
là. Vous étiez obsédée, c'était par ça. Il y avait que, comme dans une addiction, il n'y avait plus que ça qui comptait.
Voilà, c'est ça, il y en a qui boivent, il y en a qui se droguent, et moi c'était...
Le corps.
Il me fallait ma dose d'endorphine tous les jours, quoi. Ma dose de bien-être qui... je pensais qu'à ça.
Et vous passiez combien d'heures dans la salle de sport ?
J'allais 3-4 heures par jour à la salle de sport. Je me levais assis dans
le
matin.
Je note, si je pouvais ne serait-ce faire qu'une, 2 heures par semaine, moi, ça m'irait.
Non, mais mon corps réclamait tous les matins.
Oui, oui. Ben oui.
Il fallait que j'y aille. J'étais mal, oui, sinon oui. J'étais très, très mal, quoi. Donc, j'ai comblé un vide par le sport et je...
D'accord. Que vous n'aviez jamais eu jusque-là, cette espèce de culte du corps. Hein.
En fait, si, tous les 2-3 ans, j'entamais un régime sec, en fait. Tous les 2-3 ans, en fait, c'était... J'ai un régime parce que je me suis jamais acceptée. J'ai jamais aimé mon corps. Enfin, je m'aime pas, en fait, c'est ça. Et là, je me suis trouvée, mais... surpuissante, quoi.
C'est ça, vous maîtrisiez, là. Vous étiez dans le contrôle. Et puis, aussi, l'image que vous renvoyez votre miroir, ce contrôle que vous exerciez sur votre corps, vous vous plaisiez aussi, comme cela.
Ah, mais je me plaisais.
Vous vous sentiez belle. Peut-être pour la première fois, oui, c'est ça.
Exactement, exactement. Et comme j'arrive plus à contrôler mes enfants, parce qu'ils grandissaient, en fait,
oui. Vous avez quel âge ? Ils étaient adolescents.
Oui, ils étaient adolescents, ils n'avaient plus besoin de moi. Puis, enfin, voilà, les enfants grandissent.
Oh, ils ont toujours besoin, mais différemment. C'est moins gratifiant.
C'est moins gratifiant et je n'étais pas là pour eux. Exactement.
Il y avait un vide. Alors, vous en parlez au passé en même temps, Joséphine, de cela ? Vous dites, je ne sais pas de combien de temps, parce que vous parlez de ce parcours, de cet enfermement, mais vous en parlez au passé. Ça veut dire que vous êtes sortie de ça, ou quelle heure ?
Ah non, pas du tout, parce qu'en fait,
tel que vous en parlez, on a l'impression que vous avez du recul.
J'ai du recul parce que j'essaie d'avancer et de comprendre ce qui m'est arrivé, mais je ne sais pas ce qui m'est arrivé. C'est vraiment des troubles mentaux.
Des troubles, pardon ?
Des troubles mentaux, parce que de cette bigorexie, on en parle beaucoup.
Qui est l'addiction au sport.
Qui est une addiction au sport, comme vraiment une addiction... vraiment, oui, on voit, on se rend compte sur quand on rencontre un alcoolique, on sait que c'est l'alcool. Un drogué, on sait que voilà, il prend des stupéfiants. Mais une addiction au sport, ça se voit pas, en fait. Moi, je mets ça au même niveau. Et du coup, après, j'en ai fait une anorexie mentale. Je comptais mon nombre de calories. Je comptais le nombre de noisettes, d'amandes que j'allais mettre dans mon yaourt maigre. Je mangeais plus. Je pouvais plus réfléchir. J'étais plus dans le monde, dans un monde réel, en fait. J'étais plus là. J'étais pas présente. Pas du tout concerné par le présent.
Vous aviez eu des épisodes comme ça ? Vous me parliez de régime sec. Vous aviez déjà eu des épisodes
Oui.
Parce que là, c'est quand même...
Tous les deux ans, à peu près. Donc, j'étais un yo-yo. Et là,
Vous étiez un peu dans le contrôle, comme ça, avant, dans votre vie
Tout le temps.
Oui, parce qu'il y a une chose que j'ai entendue, vous dites, à un moment, je ne pouvais plus contrôler mes enfants, alors j'ai contrôlé mon corps.
Oui, voilà, c'est ça, en fait.
Vous aviez besoin d'exercer face à une angoisse, qui n'était pas nommée, mais de contrôler au maximum. Voilà, puis ça, tout vous a échappé, finalement, par rapport à cette vie que vous fantasmiez dans le Sud. Ça a été compliqué, cette période-là, au fond. Tant que vous aviez les enfants, vous en êtes occupés, ça remplissait un peu votre vie, mais...
Voilà, ma vie de maman, voilà. C'est ça.
Sans utilité, vide, sans...
Exactement. Et ce vide, je l'ai comblé par le sport à haute dose. Et puis, on me parle de bipolarité, là.
D'accord, j'allais vous demander si vous aviez vu, parle, c'est-à-dire que vous avez vu un médecin, un psychiatre ?
Oui, voilà, j'ai vu un psychiatre la semaine dernière, j'ai vu ma psychologue cet après-midi.
D'accord,
j'essaye de comprendre. Et...
Oui, vous avez raison, c'est bien. Enfin, vous avez... Parce que ça veut dire que vous souffrez de cela aujourd'hui.
Je souffre complètement parce que je ne
Ça ne fonctionne plus, au fond, vous vous rendez compte?
Non, voilà, c'est ça.
Ça ne fonctionne plus. Il y a eu un moment qui a été très exaltant, très euphorisant.
C'est ça.
Et là, vous êtes dans la phase d'un peu de descente.
C'est ça. Et je pense que ce que m'a dit la psychiatre, elle me dit de mes études,
oui,
de psychiatre, on peut découvrir une bipolarité tardive.
Oui, c'est vrai.
Chez certaines personnes, oui. Il va falloir que je travaille là-dessus parce que j'assume pas du tout le fait d'être partie, d'avoir abandonné ma famille et mes enfants. J'arrive pas à leur parler. Je voudrais leur faire comprendre que j'ai pas voulu cette séparation. Je suis partie, mais j'étais pas moi.
Mais... déjà, l'important, c'est que vous puissiez... vous sortez... c'est les premiers pas, là, de cette contrôle, de cette toute-puissance que vous aviez. Finalement, c'est la souffrance aussi qui vous fait demander de l'aide. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui... Bon, donc, il faut déjà que vous compreniez un peu, vous, ce qui vous arrive, et vous pourrez en parler à vos enfants, mais quand vous parlez de séparation avec votre famille, c'est ça que j'ai pas compris, c'est-à-dire que vos enfants, ils ont quel âge aujourd'hui ?
Ils ont 21 et 19 ans.
21 et 19 ans. Mais alors, vous vivez toujours dans le Sud ?
Je vis toujours dans le Sud, mais eux sont étudiants à l'étranger tous les deux.
D'accord, donc ils sont partis, ils ne sont pas retournés chez leur père, ils font leurs études à l'étranger.
Voilà, mais quand ils reviennent dans le Sud, ils vont chez leur papa.
Parce que le Sud aujourd'hui aussi, votre mari.
Voilà, c'est ça. Parce
d'accord.
Que moi, j'ai pris un petit appartement dans le Sud.
Et d'accord, je comprends.
J'ai même pas pensé à eux, à prendre une chambre pour eux, parce que j'en étais incapable, parce que j'ai pris rapidement ce qui me tombait.
Mais il y a combien de temps vous avez pris cet appartement ?
C'était il y a 3 ans.
Ah, donc ils étaient encore mineurs
Il y en avait un de mineur et un...
Mais c'est-à-dire que vous avez quitté l'endroit où vous étiez avec eux pour vous installer dans un logement, mais vous leur en avez parlé ou leur... Je sais pas comment
c'est... Non, je pouvais pas leur en parler. J'étais pas capable. J'avais pas le. J'étais pas moi-même.
Vous êtes partie de la maison un jour sans leur dire.
Sans leur expliquer pourquoi je partais, les raisons. J'étais incapable.
D'accord, je n'avais pas cette information-là. D'accord.
Oui, il n'y a pas.
C'est pour ça que vous parlez de séparation. Aujourd'hui, ils ne veulent plus vous parler. Vous les voyez plus.
Si, je les vois quand ils reviennent, mais j'aimerais leur expliquer que c'est pas de ma faute.
Ils vous font pas de reproches, vos garçons ?
Ils me font pas de reproches, mais...
Ils sont malheureux, certainement. Ils comprennent pas.
Oui, puis à chaque fois que j'ai envie de leur en parler, ils veulent plus entendre mon histoire, parce que ça les rend triste, parce qu'ils comprennent pas, parce que...
Je comprends.
Et du coup, j'ai plus de repères, je suis paumée, je sais pas comment faire.
Alors, pour le moment, vous êtes en train vous dites, vous êtes dans cette phase où vous essayez de comprendre ce qui vous est arrivé, en fait, déjà. C'est ça, priorité. C'est au-delà de comprendre. D'ailleurs, avant même de comprendre, d'ailleurs, c'est même pas ça, la priorité. C'est que vous souffriez moins. Et peut-être qu'effectivement, il y a, si cette psychiatre, c'est pas la première fois qu'elle vous voit, j'imagine.
Eh ben, si. Si.
Bon, alors parce qu'un diagnostic de bipolarité, on ne le pose pas en une fois. On prend le temps quand même.
Justement, c'est
peu
pour
de
ça
voir.
Qu'elle ne l'a pas posé.
Oui, non, on prend le temps de revoir avec... Elle va refaire un peu votre histoire de vie et on peut retrouver, même sous forme un peu légère, mais peut-être des antécédents, des choses. Ça, quand c'est diagnostiqué tardivement, il y a un peu des éléments qui passaient inaperçus, mais qui étaient déjà un peu là. Voilà.
D'accord.
Mais donc ça peut expliquer ce point de bascule à un moment où on voit bien, comme dans l'addiction, vous passez, il y a une perte de contrôle en fait, parce que c'est ça, vous qui aimiez, ça vous rassurait, ça comblait, peut-être ça masquait vos angoisses, ce besoin de contrôler, et puis à un moment, comme dans toute addiction, ce qui la caractérise, c'est la perte de contrôle. Et on voit bien que vous avez perdu le contrôle total, c'est-à-dire que c'était, c'est même si vous contrôliez votre alimentation, mais vous perdiez le contrôle par rapport à la pratique du sport, par rapport au fait qu'à un moment il n'y a plus que le rapport à l'objet qui compte, l'objet de l'addiction, et les liens se délitent autour. Donc, il sera toujours temps quand vous irez mieux. De pouvoir parler. Le contact n'est pas rompu avec vos enfants. Vos enfants, ils ont compris que vous alliez mal. Et peut-être que quand vous essayez de leur en parler, ça les angoisse. Ça les angoisse parce qu'ils sentent votre angoisse, ils sentent votre culpabilité, et que ce sont de jeunes garçons qui ont aussi leur vie à construire dans des études. Voilà. Et peut-être que d'ailleurs, il serait important quand vous serez un peu plus apaisé, de alors mettre des mots quand vous en sur votre mal-être, mais aussi les entendre, parce que sinon on est dans quelque chose dans et c'est peut-être certainement trop tôt là, mais entendre ce que eux ont à en dire, parce que là on sent votre besoin de dire en gros qu'il vous pardonne, que vous n'étiez pas responsable de cela, de vous justifier, oui. D'expliquer qu'il y a une souffrance derrière cela.
Voilà.
Et ouais, ça, vous pourrez leur dire, et ils seront à même de le comprendre. Et puis après, peut-être qu'eux auront des choses à vous dire, et que c'est pas... à un moment, c'est votre maladie qui a pris le dessus, d'une certaine façon. C'était plus vous-même. Vous n'étiez plus vous-même.
C'est ça.
Et alors, si de fait, il y a des troubles bipolaires derrière... en tout cas, pour que ça ait pris une telle place, une telle proportion, c'est que de toute façon, il y a quelque chose derrière, dans ce vide.
C'est ça. Et ce que je me dois de leur dire,
oui.
Mais non, je vais pas bien, je peux pas leur dire ça, parce que, voilà, ils sont en train de se construire, et d'entendre leur maman au téléphone dire, ben non, ça va pas.
Peut-être que il s'agit pas de les prendre comme de les rendre dépositaires de votre souffrance et de dire non, ça ne va pas, mais dire j'ai pris conscience que je n'allais pas bien et je fais en sorte d'aller mieux, je me soigne. C'est-à-dire que ça ne les vous n'en faites pas vos confidents de votre mal-être, parce que je pense qu'ils savent, qu'ils se rendaient compte qu'entre la maman qu'ils ont eue à un moment donné et celle qu'ils ont eue là dans ces dernières années, c'était pas la même personne. Et non. Qu'ils ont bien vu que vous n'alliez mal, mais sans savoir ce qui se passait, puisque vous ne le saviez pas vous-même, et que ça a dû être très angoissant. Aujourd'hui, ce qui est plus rassurant que toutes ces années que vous avez passées, c'est qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience, il y a un déclic chez vous. De dire je ne vais pas bien. Ce que vous ne disiez pas alors, vous ne pensiez pas aller mal, puisqu'au contraire, le sport prenait toute votre place. Et il y a eu un moment où enfin vous vous sentiez exister, puissante, et où vous vous aimiez, et au point de vouloir en faire votre métier. Et puis à un moment, la souffrance, elle est revenue en boomerang, parce que c'était l'expression de votre souffrance. Ce qui change tout aujourd'hui, c'est que il y a une lucidité, il y a une prise de conscience. Et ça, pour vos garçons, c'est quelque chose qui est même rassurant, de pouvoir dire « je prends conscience que j'allais mal, ça n'a pas dû être facile pour vous. Aujourd'hui, je me fais aider et je vais tout faire pour aller mieux et pour qu'on puisse retrouver des relations
apaisées. » C'est ça, qu'ils retrouvent leur maman,
voilà.
Telle qu'ils l'ont connue.
C'est ça qu'ils ont besoin d'entendre. C'est-à-dire, c'est ce que dit Brigitte, elle dit ce qui les rassurait, c'est de savoir qu'en fait, aujourd'hui, vous cherchez à vous soigner. Vous avez pris conscience. En fait, c'est ce qu'il suffit de leur dire. Et pas de leur dire au téléphone, ben non, je vais mal. Dire, j'ai pris conscience que j'allais mal. Ce que je ne voyais pas pendant toutes ces années, qui a dû être très compliqué à vivre pour vous, d'ailleurs. Et c'est aussi une façon de leur dire.
C'est même pas la période, parce que je ne me rendais pas compte. C'est quand je me suis réveillée et je me disais, mais qu'est-ce que j'ai fait? qu'est-ce c'est que ça. J'ai fait.
Mais c'est une façon de dire, je prends conscience que j'allais mal, et je vais tout faire pour me soigner, je vois. Ça donne un peu du sens à quelque chose qui, pour vous, n'en avait pas. Mais eux non plus ont dû se demander ce qui se passait. J'espère que leur père aussi a pu expliquer, enfin a pu être un élément un peu d'apaisement, un facteur d'apaisement. Mais la priorité, c'est ça aujourd'hui, Joséphine, c'est que vous acceptez que bon, ça n'allait pas. Qu'est-ce que vous voulez dire ? On peut pas reprocher à quelqu'un d'être en souffrance.
Non.
Donc vos enfants, ils ont surtout besoin de savoir que vous allez tout faire pour vous soigner. Et si ce sont des troubles bipolaires qui sont à l'origine de cela, ça se soigne. Vous allez retrouver vraiment un mieux-être. Donc, soignez-vous bien. Soignez-vous bien, Joséphine. Merci beaucoup pour votre appel.
Merci.
Au revoir.
Au revoir, Caroline.
C'est fini pour ce soir. Je vous embrasse. Je vous souhaite une très belle nuit. Et puis, on sera de retour avec la petite équipe. N'oubliez pas, hein, 23h ce soir. Belle nuit.
De passer la nuit à l'écoute de RTL. Tout de suite, nous vous proposons d'écouter ou de réécouter Entrer dans l'Histoire, la quotidienne, la chronique matinale de Laurent Deutsch, tous les jours à 7h20. Bonne nuit et bonne écoute.
Bonjour Laurent Deutsch.
Bonjour Yves, bonjour Amandine.
Aujourd'hui, nous sommes le 30 avril, c'est le jour où Adolf Hitler s'est donné la mort dans son bunker à Berlin, il y a 79 ans.
C'est ça. 10 jours plus tôt, le Führer avait fêté son 56e anniversaire. Enfin, si on peut appeler ça fêté, hein. L'armée soviétique était aux portes de Berlin. La guerre était perdue pour l'Allemagne, même si certains voulaient croire encore à un improbable retournement de situation.
Alors, quels ont été ses derniers gestes avant de quitter la scène politique ?
Hitler a fait une dernière apparition publique dans les jardins de la chancellerie pour décorer de la croix de fer des membres des jeunesses hitlériennes. Une parade dérisoire, masquant une vérité cruelle. Des jeunes envoyés au casse-pipe pour rien. Et Hitler le savait très bien, mais il est allé jusqu'au bout, car comme il l'a dit ainsi, si la guerre est perdue, le peuple allemand aussi est perdu. En clair, après moi le déluge, mais un déluge de feu. Comme Néron, le Führer regarde Berlin brûler, mais lui sans faire de vocalise.
Et puis Hitler se réfugie donc dans son bunker, dont il ne ressortira jamais.
Voilà, c'est son ultime quartier général. Il y règne une atmosphère crépusculaire surréaliste. Les télégrammes annoncent que des mauvaises nouvelles, défaites, défections. La débâcle est imminente. Les généraux sont lucides, mais partagés entre leur fidélité au Führer et leur instinct de survie.
Bon ben alors, et Adolf dans tout ça?
Alors lui, il est aux fraises, hein, franchement. Il paraît 20 ans de plus que son âge, il dort plus, son corps le lâche, il tremblote de partout, il déambule voûté dans les couloirs avec l'air absent. Seule Eva Braun, sa maîtresse, tente d'égayer le bunker en organisant des fêtes avec de la musique, du champagne. Une fièvre érotique et idyllique semblait avoir pris possession de tous, dira l'ultime secrétaire d'Hitler. Pulsion de vie et de mort, Eros et Thanatos.
Et c'est la mort qui va finir par l'emporter.
Le 30 avril 1945, Hitler s'est levé de bonne heure, sa décision est prise. Il ne veut pas finir comme Mussolini et comme sa maîtresse, dont les cadavres ont été exposés de façon humiliante à la foule. Hitler donne à son aide de camp des instructions précises pour l'incinération de son corps et de celui d'Eva Braun. Après un dernier déjeuner avec ses secrétaires, où il leur fait ses adieux, il rejoint sa maîtresse dans sa chambre et vers 15h15, un valet de chambre pénètre dans le salon et découvre les deux cadavres. Ceux-ci sont immédiatement brûlés dans le jardin de la chancellerie, tandis que les bombes soviétiques pleuvent sur Berlin. Ainsi s'achève piteusement la vie de celui qui voulait fonder un Reich de 1000 ans.
Et pourtant, de nombreuses théories tentent de faire croire qu'Hitler a réussi à s'échapper puis à vivre caché, par exemple, en Amérique du Sud.
Il faut dire qu'en absence de témoins, les circonstances exactes du suicide du Führer n'ont pas pu être établies avec certitude. Seuls les Russes, les premiers arrivés à Berlin, ont pu trouver le corps du dictateur déchu. Pourtant, Staline a choisi de garder le secret sur cette découverte.
Ah bon, mais pourquoi ?
C'est difficile à dire. Mais on sait maintenant que les restes calcinés d'Hitler et d'Eva Braun furent emmenés en secret et finalement détruits par le KGB en 1970, sauf une mâchoire et un morceau de crâne. Et en l'an 2000, pour la seule et unique fois, les archives russes ont exposé ses restes à Moscou. La mâchoire a alors été authentifiée comme le dernier reste d'Adolf Hitler. L'affaire est donc classée.
Merci beaucoup, Laurent.
Prochain rendez-vous avec Laurent Deutsch, tout à l'heure à 7h20 ou dès maintenant en podcast sur rtl.fr et l'application RTL. Et tout de suite, on rit ensemble avec l'œil de Philippe Cavrivière.
Bonne nuit à l'écoute de RTL.
Cher Philippe, Amine Benyamina, chef du service de psychiatrie et d'addictologie de l'hôpital Paul Brousse, co-président du groupe de travail rattaché à l'Élysée, ainsi que la vice-présidente Servane Mouton, qui elle est neurologue, sont donc restés tous deux pour votre chronique et ils sont tous les deux co-présidents de la structure.
Et le docteur Amine Benyamina et la vice-présidente Servane Mouton sont déjà venus en janvier, mais Servane, vous n'étiez pas en studio, vous étiez en direct de Lyon. Lyon, ville française de la région historique Rhône-Alpes. Lyon, c'est Gérard Gollon, ce maire jeune et dynamique, qu'on voit moins depuis son décès. Lyon, avec son amphithéâtre romain des Trois Gaules, Lyon, c'est 513 275 habitants, code postal 69. Alors, pourquoi je vous dis ça alors qu'on s'en branle, en fait? Eh bien, c'est pour meubler, car il y a une personne à RTL qui lutte contre l'addiction aux écrans, c'est Isabelle, l'assistante d'Amandine, qui ne m'a pas prévenu que nous ne recevions pas Frédéric Duval, le DG d'Amazon, à 7h40, mais bien Amine Benyamina et Servane Mouton. Isabelle, bien sûr, dont je tairai le nom pour ne pas ruiner son avenir professionnel, Isabelle Joliot, J-O-L-I-O-T. Alors, elle s'est dit, est-ce que je préviens les 1 500 000 auditeurs d'RTL ou est-ce que je préviens Philippe? Non, c'est plus fair play, je vais prévenir personne. Sauf que moi, à 23h, je reçois les questions d'Amandine. Et comme je suis supérieurement intelligent, je vois bien qu'Amandine pose très peu de questions sur Amazon, Jeff Bezos et l'e-commerce. Et je découvre vos noms. Et à ce moment-là, j'ai failli faire avec mon téléphone ce que vous conseillez à chaque parent de faire avec le smartphone de son enfant, c'est-à-dire l'éclater à coups de marteau. Mais bref, je suis ravi d'être face à vous.
Voilà. Vous m'avez mis, j'ai comme un doute. Hein.
Ouais, le
SMS.
Ne m'en veuillez pas. J'ai dormi 11 minutes. Je peux m'endormir à tout moment devant ma. Pendant ma chronique, c'est arrivé à Christiane Taubira. En fait. Oui. Donc, je suis très content d'être face à Amine Benyamina et Servane Mouton. Et quand j'ai vu le casting, j'ai tout de suite contacté mes amis racistes de Fréjus. J'ai dit, on a un Algérien et un Mouton. Est-ce qu'il n'y a pas des vannes racistes à faire? Alors, à base d'Aïd et de Méchoui. Et ils m'ont dit, oui, tout à fait. Mais il y en a plein. Mais on ne va pas les faire parce qu'on est pas sur Sud Radio ou sur Europe 1. Non, on est sur RTL.
J'entends Pardon. Bien. Alors, du coup, votre chronique sur le DG d'Amazon, elle était bien?
Elle était super. Alors,
parce que du coup, c'est à moi qui l'ont filé.
Oui, voilà.
Oh non, mais arrêtez.
Oui, je vois. On vous donne les coulisses, on est transparent.
Oui, bien sûr.
Non, la chronique a été très bien, alors que celle-là, je l'ai torchée en 20 minutes. Vous allez vite vous en apercevoir.
Ça s'entend.
Et puis, face au directeur d'Amazon, moi, j'avais fait une chronique où je louais les écrans, le streaming, Internet, le contenu sans limite, le divertissement à tout prix, et les écrans pour petits et grands. Et là, je suis pas con. J'ai entendu l'interview, je me rends bien compte qu'on est plus sur les écrans, c'est de la merde, qui est un peu le message inverse. En tout cas, moi, Servane et Amine, je vous trouve très couillus de nous alerter sur les ravages des écrans pour les plus jeunes dans une radio du même groupe que la chaîne Gulli. Et à chaque fois que vous ouvrez la bouche, l'action M6 perd 15%. Et le nouveau PDG, David Laramendi, oui. 2 ans d'espérance de vie.
Alors, Philippe, vous pouvez nous parler de l'addiction des enfants aux écrans, néanmoins.
Et évidemment, je suis très à l'aise sur le sujet, puisque j'ai deux chats. Parfois, dans la vie, tout s'enchaîne merveilleusement.
Oui.
Donc, c'est pas que j'en ai rien à foutre, mais je n'y connais rien. Donc, j'ai pas d'enfant, mais j'ai déjà pris le train. Et avec ma compagne, quand on voit des parents qui laissent leurs enfants devant un écran, oui. on leur lance un regard réprobateur. Oui. On fait... Non, mais enfin, mais quelle éducation! Et puis, dès que les chiens se mettent à faire autre chose, à parler très fort en commentant le paysage, on fait, ah, une vache! Ah, oh, ben, une vache! Ah, oh, ben, il y a une autre vache! Ou qu'ils font un jeu de société en hurlant, ah, Jacob, il triche! Oh, et puis Isaac, il a mis son crayon de couleur dans l'œil de Selma! Ah, au bout de 3 minutes, t'as envie de dire aux parents, mais bon sang, foutez-les devant un dessin animé qu'ils arrêtent de gueuler! De toute façon, vos enfants sont cons comme des sgegs. C'est pas un épisode de Pas de Patrouille de plus ou moins qui va sauver de l'échec scolaire ces petits trous du cul.
Voilà. D'où l'intérêt de Gulli, finalement, d'ailleurs. Alors, le gouvernement va sûrement prendre des mesures pour limiter le temps d'écran. Gabriel Attal prône déjà le retour de valeurs un peu à l'ancienne, comme l'uniforme, la Marseillaise.
Voilà. Et on sent que Gabriel Attal, il est pas très Françoise Dolto et pas très école Montessori, qui mène, on le sait, à l'enfant roi. Et l'enfant roi, c'est l'enfant tyran. Mais on a vu les résultats de l'éducation de Françoise Dolto, ça a donné quoi? Carlos, un monsieur en surpoids, certes sympathique, mais qui chantait quand même. Voilà. À 60 ans, il faisait des bombes dans la piscine d'Eddie Barclay à Saint-Tropez. Donc, est-ce que c'est ça le projet pour les enfants français? Je demande à Emmanuel Macron, est-ce qu'on veut une génération d'obèses en chemise hawaïenne? Non! Alors, à propos d'obésité, sur le coup des 4h15, j'ai regardé une conférence de Servan passionnante sur les dangers des écrans. En gros, les écrans entraînent sédentarité et manque de sommeil, qui sont deux facteurs de surpoids. Donc, et on sait que l'obésité, le cholestérol, le diabète favorisent les maladies cardiovasculaires, sans compter que la lumière bleue abîme votre vue. Donc, chers ados, grâce aux écrans, vous serez gros, aveugles, et vous serez totalement cons parce que vous n'aurez aucune capacité de concentration. Mais la bonne nouvelle, c'est que votre vie, même si elle est nue, elle durera moins longtemps, car vous mourrez prématurément d'une crise cardiaque. Voilà. L'obésité, c'était 10 millions d'enfants en 75, c'est 124 millions d'enfants. Voilà. Un enfant sur 5 est obèse, c'est pour ça que les fusillades aux USA font un carnage. C'est parce qu'ils sont gros, faciles à viser et qu'ils s'échappent à 2 à l'heure. Voilà. Lâchez vos téléphones et bougez-vous le cul.
Philippe Cabrivière, on vous retrouve à 8h40 pour votre deuxième œil, bien entendu. Merci d'être resté avec nous, Servan Mouton, Amine Benyamina. Bonne journée et bon travail.
L'œil de Philippe Cabrivière, c'est tous les matins à 7h55 sur RTL et à tout moment en podcast sur rtl.fr et sur notre application.
Et dans un instant, RTL vous propose d'écouter un épisode de Tout savoir sur, le podcast quotidien de la rédaction. À tout de suite.
Bonjour et bienvenue, je suis Martial You. Je suis ravi de vous retrouver une nouvelle fois pour ce numéro de Tout Savoir Sur. Tout Savoir Sur les Invisibles. On les appelait les premiers de corvée. La deuxième ligne, les essentiels pendant le Covid. Souvenez-vous, c'est eux et les soignants qu'on applaudissait tous les soirs à 20h.
Il est 20h.
La précarité d'une façon abstraite. J'ai besoin de voir, de partager le quotidien, voir ce qui se passe vraiment.
Il y a beaucoup de colère. Comment on peut laisser des caissières sans masque, sans gel, sans protection? On parle beaucoup des infirmières, c'est tout à fait normal, mais on a oublié ces caissières qui se battent, qui se butent pour un salaire misérable.
Les invisibles, je veux les rendre visibles.
Extrait d'un reportage sur la situation des caissières pendant le Covid avec certaines qui avaient été contaminées en travaillant, qui ont perdu la vie, vous en souvenez peut-être. Et puis extrait du film aussi, Ouistreham, sur les femmes de ménage des ferries, inspiré du livre de Florence Aubenas. Deux ans plus tard, que sont-ils ou que sont-elles devenues? Est-ce qu'on les a oubliées, retombées dans l'anonymat? Alors on va se pencher aujourd'hui sur leur situation en s'appuyant sur une étude très complète qui paraît aujourd'hui consacrée à ces invisibles. 4000 personnes interrogées au cours des derniers mois, vous avez 30 millions d'actifs à peu près en France, dont 11 millions d'invisibles. On va les définir, bien entendu, ces invisibles. 4 salariés sur 10. On a tous dans notre entourage, en fait, un personnel d'éducation, des femmes de ménage, des employés en back-office, comme on dit dans les entrepôts de logistique, ou encore aide à domicile, comme dans ce reportage, tenez, au moment de la pandémie encore.
Bonjour Nicolas Burnand. Vous vous êtes rendu dans le département de la Marne, à Courtisol, 2400 habitants. Là-bas, les personnes âgées dépendent des auxiliaires de vie.
Oui, des femmes comme Sandra qui sillonne les villages isolés avec sa voiture. Elle est aide à domicile depuis 7 ans et chaque matin, elle commence ses visites toujours par la même maison.
Bonjour Madame Deschaises, ça va ?
Là, la première précaution, c'est le masque.
Le masque. Après, je prends mon gel hydroalcoolique. Je me rince les mains et je mets mes gants. On prend des précautions particulières, aussi bien pour nos bénéficiaires que nous, nos familles. On leur ramène pas quelque chose, quoi. Eh ben, on va y aller, Madame Michel.
Quelle est la situation des invisibles? Les invisibles sont-ils et sont-elles devenus les anonymes ou redevenus des fantômes de nos sociétés? On va en parler avec Patrick Lévivetz, président de la fondation Travailler Autrement. C'est vous qui sortez cette étude avec Occurrence et Diocese Institute, avec Christine Herel, économiste, qui a rédigé le rapport remis au gouvernement de la mission d'accompagnement des partenaires sociaux dans la démarche de la reconnaissance des travailleurs de la deuxième ligne. C'était en 2021. Et puis on retrouvera aussi Vincent Jarousseau, qui est photographe, journaliste documentaire, qui a réalisé un roman photo documentaire sur les femmes du lien, la vraie vie des travailleuses essentielles. Patrick Lévivetz, premier constat, les invisibles se conjuguent, je le disais un peu au début, au féminin quand même. C'est un des éléments centraux pour comprendre de qui on parle.
Oui, c'est d'abord les femmes, ce n'est pas que les femmes, il faut faire très attention, parce qu'en fait, il y a des métiers, la logistique, c'est aussi des hommes, etc. Mais ce qui est frappant, c'est qu'au cœur des enjeux de notre société d'aujourd'hui, au cœur des invisibles, les femmes sont évidemment l'essentiel.
C'est 8 sur 10 à peu près, hein, c'est ça vous avez,
Non, c'est moins, c'est 6 sur 10, c'est globalement. Oui. Alors ça dépend quelle typologie, métiers, parce qu'on a essayé de comprendre quels étaient ces métiers. Vous avez les nouveaux ouvriers, c'est les femmes du lien, vous avez des donc vraiment c'est il faut rentrer dedans pour pas faire de généralité. Oui. Mais ce qui est clair, c'est que au moment où on parle au fond d'une société qui se fracture, la fracture entre les hommes et les femmes chez les invisibles, elle est évidente. Elle est évidente.
Si on doit donner quelques exemples, j'en ai cité bien entendu, mais on parle de qui? Parce que vous faites des catégories. Il y a des catégories chez ces invisibles.
Oui, on essaye de catégoriser, parce que d'abord 11 millions, c'est considérable. Mmh. C'est 36%, c'est un tiers de la population. Oui. Qui travaille. On parle des gens qui travaillent uniquement. Bien sûr. Un tiers. Deuxième élément, vous avez les nouveaux ouvriers. Vous savez, quand vous allez Mansalung le soir, vous faites venir votre pizza chez vous, ce sont des invisibles. Quand vous avez votre grand-mère qui est dans l'EHPAD et la personne qui ce sont des invisibles. Quand vous avez les femmes qui sont les infirmières qui sont à l'hôpital, ce sont des invisibles. Ce sont des personnes, des hommes et des femmes qui ont majoritairement, ce sont des horaires atypiques. Ça veut dire le soir et le matin. Vous avez des amplitudes horaires qui sont considérables. Parce que quand vous êtes aide-soignante ou vous êtes aide à domicile, qu'est-ce qui se passe? Bah, vous commencez tôt le matin, mais vous avez 45 minutes, puis 45 minutes, vous faites rien. Vous partez le matin à 5 heures, vous rentrez chez vous à 20 heures. Et facteur aggravant, souvent vous habitez plus loin parce que vous n'avez pas de logement. Et donc vous avez multiplicité de facteurs.
Ce sont des gens sous contrainte, en fait.
Totalement.
C'est une vie de contrainte.
C'est une
à tous les niveaux.
À tous les niveaux, c'est une vie de contrainte. Alors, on a toujours eu, évidemment, des gens plus pauvres, des travailleurs plus pauvres dans notre société. Ça a toujours existé. Ce qui est très frappant dans la société du XXIe siècle, c'est que par ailleurs, on accumule les contraintes. Des contraintes financières et pécuniaires, évidemment, très réelles. Ça joue des
quel type de salaire, juste pour avoir une idée? Quand on dit invisible, vous considérez que c'est de combien à combien?
Alors, les invisibles, ça va, c'est en dessous de 2000 euros, c'est un écart avec la société de plus de 600 euros. Mmh. Et ça va de 900 euros mois, enfin même un peu moins, hein, puisque c'est, mais de 900 euros mois à 2000 euros. Donc c'est vraiment, évidemment, alors à 2000 euros.
Pour 2600 euros à peu près de salaire moyen, c'est
moyen, ce que vous disiez, absolument, hein. Absolument. Alors, ce point, il est très important. Cette contrainte pécuniaire, elle est évidemment très importante. Mais se sont accumulées au fil des années, au fil des transformations de notre société, des contraintes de temporalité, de temps, la mobilité. Je pars chez moi, j'ai 45 minutes le matin, 45 minutes le soir, maison, bon.
Voiture obligatoire.
Voiture obligatoire.
Quasiment.
Pour les territoires. Mmh. Ou une heure et demie de transport en commun dans la région Île-de-France, ou, etc. Mais oui, la voiture est obligatoire. Rappelez-vous la crise des 80 km/h. C'était pour eux, c'était eux qui étaient concernés.
Évidemment. Et les gilets jaunes.
Et les gilets jaunes, crise des gilets jaunes. Vous avez la mobilité, vous avez évidemment le logement, qui est devenu compliqué, puisque si vous n'avez pas de logement, vous ne pouvez pas vous loger, vous allez loin. Donc vous cumulez cet élément. Et puis vous avez un phénomène dont on va sans doute parler après, qui est un phénomène sociologique majeur, lequel on est passé à côté depuis des années, c'est l'émergence des familles monoparentales, oui, qui ont doublé en 30 ans. Doublé en 30 ans. Une famille sur quatre est une famille monoparentale. Mais 82% de ces familles monoparentales, ce sont des femmes à charge d'enfants. Mmh. Et donc, quand vous êtes dans des horaires atypiques, que vous travaillez samedi ou le dimanche, et que par ailleurs, vous avez des enfants à charge, vous cumulez, et que vous habitez loin, vous cumulez des contraintes qui rendent votre vie infernale.
Christine Herrel, ce que montre cette étude, et ce qui est passionnant, hein, c'est qu'on parle là, effectivement, on l'a dit, de gens qui travaillent, qui s'en sortent pas, ou en tout cas difficilement. Et c'est cette colère-là qu'on entendait lors de la révolte des Gilets jaunes, qu'on n'a peut-être pas su voir venir.
Oui, tout à fait. Effectivement, ce qu'on a dans cette étude et dans les données qu'on avait pu collecter aussi par ailleurs sur les travailleurs de la deuxième ligne, c'est bien ce sentiment d'un décalage entre l'utilité sociale qui est forte. C'est des métiers dans lesquels la plupart d'entre eux, c'est des métiers dans lesquels les gens déclarent une forte utilité sociale.
Alors, on a l'impression, dans ce qu'on se dit depuis le début, que cette population est dans une sorte de spirale qui les entraîne toujours vers le bas, mais je vais me tourner vers Vincent Jarousseau parce que il y a aussi beaucoup d'énergie, beaucoup de volonté de s'en sortir. C'est ce qui ressort de votre travail, notamment Vincent Jarousseau, puisque vous êtes allé voir ces invisibles, mais ce sont aussi des combattants, des combattantes que vous rencontrez. Vous qui les avez eus au bout de votre caméra ou de votre appareil photo, comment est-ce que vous les décririez?
Moi, j'ai principalement travaillé sur une partie de ces invisibles que je dénomine comme les femmes du lien. Donc, ce sont 3 millions de femmes en France, hein, qui prennent soin des autres, qui travaillent dans le champ du secteur médico-social, dans l'aide à la personne. Donc, ce sont des métiers qui se sont considérablement développés ces dernières années. On compte, par exemple, 800 000 aides à domicile en France. Et oui, moi, je les définis véritablement comme des combattantes. Souvent, ce sont des familles monoparentales, donc elles ont soit à leur charge des enfants, ou parfois même leurs propres parents, hein. On voit ça en milieu rural. Ces femmes du lien sont, en plus d'être des professionnels du lien, aussi des aidantes familiales. Donc elles ont vraiment une double centralité sociale. Et ce sont des vies qui laissent assez peu de temps, finalement, à soi.
J'invite vraiment à se pencher sur votre travail, Les Femmes du Lien. Effectivement, Vincent Jarousseau, La Vraie Vie des Travailleuses Essentielles, c'est un roman photo documentaire, parce que c'est important aussi d'entendre ce discours volontariste qui est derrière leur vie au quotidien. On disait des combattantes parce que la vie est un combat au quotidien pour elles.
Oui, alors ce qui ressort aussi, c'est que moi j'ai souvent croisé des femmes passionnées par le travail qu'elles exercent, qui aiment ce qu'elles font, qui ont un sentiment de fierté de par leur fonction professionnelle. elles savent pourquoi elles sont là, mais qui en même temps rencontrent une frustration de ne pas pouvoir bien faire leur travail. C'est quelque chose que l'on voit beaucoup à l'hôpital, que l'on voit beaucoup dans le secteur médico-social, c'est-à-dire qu'il y a des contingences et des contraintes comptables, je dirais, dans leur métier, qui fait que on peut pas passer suffisamment de temps avec des gens en situation de souffrance, tout simplement. Et d'autre part, ce sont des métiers qui sont extrêmement mal rémunérés. Officiellement, elles travaillent, j'ai bien dit officiellement, à temps partiel, très souvent, mais en réalité, ce sont de faux temps partiels, c'est-à-dire que elles ont un temps effectif de travail qui est comptabilisé uniquement sur les interventions et pas sur la plupart des trajets.
Alors, c'est vrai aussi que ces femmes, parce qu'il y a quand même beaucoup de femmes, et majoritairement des femmes, on les a mis sur un piédestal pendant le Covid. Et c'est peut-être ça qui est le plus dur à vivre aujourd'hui, parce qu'on le voit avec les difficultés de Casino dans la grande distribution. D'ailleurs, Casino indique qu'ils vont remettre des caissières parce qu'ils sont allés trop loin dans les caisses automatiques, ce qui prouve quand même que ces métiers du lien sont essentiels. Mais depuis le Covid, on les a un peu oubliés. Écoutez ce constat dressé, c'était en 2021, hein, juste après les confinements, sur RTL avec Christelle Robière et Christophe Ponzio.
Ils avaient été les héros du premier confinement, surnommés les premiers de corvée, les caissières, les éboueurs, les livreurs, qui, en plus du personnel soignant, nous avaient permis de vivre presque normalement. Le gouvernement avait promis de revaloriser leur salaire, et puis plus rien. Aujourd'hui, la CFDT, Christophe Ponzio, exige que les promesses soient tenues.
Oui, car cela fait bientôt un an que ces professions attendent.
On était vraiment les travailleurs de deuxième ligne, mais en plus, on est carrément invisibles.
Elisabeth est aide à domicile en Ardèche, mobilisée à 300% au printemps dernier, mais toujours pas remerciée.
Ça a été très très mal perçu. Hein. Pourtant, on était essentiel à la bonne marche des choses, hein, pour maintenir les gens en bonne santé chez eux. Et le fait que nous ne soyons pas reconnus, que la valorisation de nos salaires, ça passe par-dessus la tête, on va dire, de nos dirigeants, on n'arrive pas à recruter. Donc le personnel en place est épuisé.
C'est un titre du groupe U2. Patrick Lévivette, est-ce que... On parle de cette France périphérique, mais on met des mots un peu conceptuels. Là, on est dans le concret. Est-ce que c'est faux si je dis que il ou elle ont ce sentiment d'être maltraité aujourd'hui, plus qu'avant le Covid, justement parce qu'ils ont été portés un peu au nu à ce moment-là, qu'on leur a donné un rôle essentiel, et que finalement, ils sont toujours aussi maltraités qu'avant, si je suis un peu caricatural, mais que c'est plus dur à supporter aujourd'hui?
Bon, c'est sûr que quand vous avez connu une reconnaissance telle qu'il y a eu au moment du Covid, c'est sûr que quand vous retombez dans l'anonymat, c'est un peu plus dur. C'est d'autant plus dur que les circonstances économiques, vous l'avez dit tout à l'heure, le prix à la pompe, l'essence que vous avez besoin de mettre dans votre voiture, ou que les crises successives que nous connaissons, y compris d'ailleurs l'angoisse, l'éco-angoisse de la transition écologique qu'ils ne peuvent pas porter, parce qu'ils n'ont pas les moyens, renforce encore ce sentiment de déclassement ou cet écart avec la vie des autres. Moi, je voudrais juste mettre en plus en exergue un point, c'est que hier, avant-hier, les travailleurs pauvres, ils vivaient avec leurs dirigeants d'usine dans le petit village ou la ville moyenne. Ils se retrouvaient au marché le matin. Ils avaient le sentiment, c'était le paternalisme à l'époque. Bon, aujourd'hui, il y a une fracture complète, ils ne les rencontrent plus, les dirigeants sont ailleurs. Mais surtout, derrière ça, ils n'ont plus qu'une chose pour voir un peu les cas. Ils vont sur les réseaux sociaux et ils visualisent la vie des autres. Donc non seulement ils ont cette vie sous contrainte en permanent, le sentiment que ça peut basculer du mauvais côté tous les jours, mais en plus, ils ont la capacité à voir la vie des autres. Donc ça crée une frustration et une colère et qui est telle que la société est en éruption permanente et ça ne peut pas continuer comme ça. ou au contraire...
Ce que vous dites, c'est que là, on a en gestation une crise sociale du type gilet jaune. On est aux prémices d'un nouveau ras-le-bol social porté par les invisibles.
Je ne crois pas qu'on peut appeler ça un ras-le-bol social au sens où on l'entendait culturellement avant. Je pense que la société est en ébullition et que oui, tel qu'il y a eu les gilets jaunes, il y aura d'autres crises de cette nature. Il y a eu l'éruption des banlieues, il y a eu l'éruption des gilets jaunes. Et donc, on a vu les crises agricoles. Donc, elles vont se multiplier dès lors qu'on n'est pas capable d'appréhender et d'encapsuler cette réalité dans une société de demain.
Portée par ces invisibles,
bien sûr.
C'est plus une catégorie sociale.
C'est transversal à la société. Vous le disiez tout à l'heure, c'est des gens éduqués ou des gens qui le sont un peu moins. Ce sont des gens qui sont dans les territoires autant que dans les quartiers difficiles. Vous les avez au centre des villes ou vous les avez partout. Ce sont des hommes et des femmes. Et donc, on voit bien que c'est un sujet de fond et transversal à la société.
Merci beaucoup à tous les trois. Patrick Lévivetz, président de la Fondation Travailler Autrement, avec cette étude. Je renvoie vers elle, consacrée aux invisibles, très complète.